caravana da Maximum. Cagou! Cagou!
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour
vive mon bonheur, vive le soleil. Vive
les oreilles
libres.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne. Partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Aujourd'hui, nous avons la chance, le bonheur de recevoir Joël Léandre. Bonjour Joël.
Bonjour, bonjour à vous.
Et alors, on a commencé l'émission avec un extrait du disque Zurich Concert, sorti chez Intact le 17 février de l'an passé, 2023. Et il s'agit d'un solo, c'est ça, hein ?
C'est un solo, oui.
Bon, alors, on va écouter pas mal de musique, mais on va surtout parler avec toi.
D'autant plus que je suis une tchatcheuse.
Ah, bah ça tombe bien. Alors, je sais pas si ça va t'ennuyer ou quoi, qu'on parle un peu de formation, de ta formation. Et notamment, j'aimerais savoir si... je pense que tu as eu une formation classique à la contrebasse avant de t'intéresser au jazz. Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé. J'ai un long parcours, donc ça fait 65 ans que je joue le même instrument. Déjà, ça veut dire quelque chose. Quand tu as 9 ans, tu n'as pas écouté Ron Carter, Charlie Mingus ou Ray Brown. Ouais. Tu vois, c'est pas possible. Ouais. Donc, formation classique, oui, il vaut mieux. Et c'est des bonnes bases, une formation classique. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu connais ton outil d'expression. Hein, c'est pareil pour un ou une trompettiste, pianiste, tout instrument. De toute façon, la musique est instrumentale. Après, c'est les grosses têtes à l'IRCAM ou je ne sais, les chercheurs, les conceptuels, les intellectuels, qui existent aussi dans la musique, bien sûr. Mais donc, j'ai commencé très, très enfant sur un tabouret. J'avais 9 ans, venant d'un milieu où il n'y avait pas beaucoup de sous. On appelle le monde prolétaire. Les parents, la famille a fait beaucoup de sacrifices. Ben, pour mettre effectivement mon frère aussi, et musicien, il a arrêté maintenant, et mettre les enfants au conservatoire. Je viens du Sud, Aix-en-Provence. Je crois qu'il n'y a pas plus, honnête d'une certaine manière, mais il n'y a pas plus ouvrier que d'essayer, avec sacrifice, que leurs enfants, de ces familles ouvrières, je crois internationales, ne mangent pas la merde que eux ont mangée. Parce que c'est ainsi. Quand c'est difficile, qu'il n'y a pas de sous, il y a sorte de, je sais pas quoi, ambition, petite ambition. Donc, les parents, la mère, beaucoup, mais le père travaillant, la mère a dit oui. Mais je peux le dire au micro fort et plus que fort, quand à 8 ans et demi, grâce à un pipeau en plastique à l'école primaire, j'étais rapide, douée, j'en savais rien. Et cette même année, donc, du pipeau en plastique, même pas une flûte, un pipeau trois fois, je l'ai dit, en plastique, j'ai demandé à la mère, qui était dans la cuisine, triant des légumes sûrement, une table en formica, voilà les prolos, et j'ai dit, maman, je voudrais faire de la musique. Alors tu ou vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, il y a eu un silence. Moi qui ai travaillé 15 ans avec John Cage, il y a eu un silence. Alors j'ai relevé la tête pour parler à la mère. Elle me dit, quoi ? Je voudrais faire de la musique. Et le silence s'est allongé. C'est comme si la pendule tournait. Et elle m'a dit, c'est pas pour nous. Non, la musique, c'est pas pour les prolos. Parce qu'il faut des sous pour louer un instrument, acheter quelque chose, s'inscrire au conservatoire, prendre des cours particuliers avec le professeur ou la professeuse ou professeure. Il faut des sous. Eh ben cette chose-là, cette réflexion-là, à l'âge de 9 ans, je me demande si c'est pas ma colonne vertébrale à bientôt mes 73 ans et que je continue, que je résiste et que je suis moi aussi une travailleuse.
Ah ouais. Oui, merci. Merci de dire ça. Alors, je voulais que tu parles aussi de l'apprentissage de la musique classique, donc, tu viens de le dire, à la contrebasse. Je m'y connais pas assez pour savoir s'il y a un répertoire à la contrebasse.
Oui. Ouais. Donc, classique, pour aller vite, j'ai fini mes études au conservatoire d'Aix-en-Provence, d'où je viens, et j'ai présenté le conservatoire de Paris. En 69, hein, l'après 68, quand tout pétait, tout explosait. Donc je réussis, parce qu'on rentre au conservatoire, il y avait 2 places, et on sort du conservatoire, ou on s'en sort. On s'en sort. Et vous finissez avec un prix, un bout de papier. Donc évidemment, c'est du classique, mais je l'ai déjà dit, c'est des expériences magnifiques, instrumentales, et on connaît tout. Alors comment on arrive beaucoup plus tard Je suis curieuse et je mourrai curieuse, c'est ainsi. Curieuse pas que de son et musique, mais autant de littérature, de poésie, de tout ce qui se passe dans cette créativité. Oui, dans cette... en anglais, on dit « here and now », maintenant, ici et maintenant. Oui, parce que on dit musique contemporaine, par exemple. Elle n'est pas contemporaine, comme disait John Cage. Elle est simplement de notre époque. Mmh. Voilà, elle n'est pas contemporaine, elle est juste les sons de notre époque. Sauf que nous sommes écrasés des médias classiques et conservateurs par les musiques nécrophiles, on appelle ça. Excusez-moi, c'est magnifique d'écouter Mozart, Beethoven ou la Tosca, où je pleure quand j'écoute la Tosca, mais basta, on dira en italien. On peut écouter aussi la musique de notre époque, de notre century, siècle. Voilà, elle n'est pas contemporaine, elle est simplement maintenant. On ne peut pas réécrire comme il vaut mieux écouter Mozart ou écouter Coltrane, et on ne peut pas jouer Coltrane. Sinon, on écoute Coltrane, on ne va pas jouer comme Coltrane. Oui. Donc voilà, ça c'est à savoir, ça m'a suivi toute ma vie. Donc après le classique finissant, je vais y arriver. Mes études classiques, tiens, un papier dit, oh merde, qu'est-ce que je vais faire? Tu joues bien, oui, c'est le minimum. Ça fait déjà 15 ou 17 ans que je joue de la contrebasse. Évidemment, tu joues bien, tu connais, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, ben, pour payer ton loyer ou tes godasses ou tes chaussettes ou aller au cinéma, eh ben, j'ai été freelance dans des orchestres symphoniques. Freelance, ça s'appelle libre, tu prends pas, t'as pas de position, t'as rien, tu as un carnet, il t'appelle, allô, Léon, écoutez, voilà, il y a 3 concerts aux Champs-Élysées avec Bernstein ou Lorraine Mazel ou, Célébidage, tous ces grands chefs d'orchestre, il est vrai. Voilà, il y a 10 répétitions, tac, tac, et tu commences à gagner des sous, parce qu'il faut bien gagner des sous pour payer ta chambre de bonne à l'époque, ou même prendre un studio un peu plus grand. Donc j'ai fait ça, mais au milieu de ça. Parce que je suis curieuse. Je suis allée écouter les Blacks, parce qu'à la même époque, dès les années 70, il y avait le free jazz à Paris, au centre américain boulevard Raspail. Voilà, centre américain boulevard Raspail. J'avais un vélo, un vélo Solex. Je ne sais pas pourquoi, c'est personnel, personne ne me dit que j'aurais pu faire autre chose. Je partais, j'allais écouter les Blacks, maintenant on dit les Afro-Américains. Mais j'écoutais Braxton, Art Ensemble de Chicago, Frank Wright, Frank Lowe, Rashed Ali, le drum de Coltrane, n'est-ce pas? Tout ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font sur le plateau? J'entendais... Ils avaient des trucs, des je sais pas quoi, c'est un choc, un coup de pied aux fesses, my God, je les ai toujours remerciés, et je continuais pour gagner ma croûte, freelance, dans des orchestres symphoniques ou des trucs, alors tu vois un peu entre le free jazz qui n'est pas le jam, mais qui est free jam, on pourra en parler, et le classique. Et au milieu de ça, moi je suis, c'est pas le sandwich, je suis McDonald's, moi. J'ai 3 couches. J'ai le classique, c'est-à-dire la tradition. J'ai l'aventure, c'est-à-dire contemporaine de mon siècle. Et avec le free jazz, ce domaine qui s'appelle freedom, qui t'appelle la liberté d'être toi, de chercher ta musique. Parce que le jazz, ils ont toujours inventé leur musique, hein. C'est toujours, quand on voit les siècles, non, c'est même pas les siècles, c'est une musique jeune, mais tous les styles, les idioms, comme on dit chicement, le New Orleans, mais après, t'as le bop, t'as le hard bop, t'as le bebop, t'as le jazz rock binaire, t'as le free jazz, t'as le, le third dimension, il y a aussi ça, tout ça, c'est ça, mais c'est des musiques qui, les Blacks, qui, ils ont créé, ils, il n'y avait pas beaucoup de filles, hein, à l'époque, ils ont créé leur musique, et ça, ça m'a attiré. Mmh. Alors, au milieu, donc, j'ai arrêté le classique, évidemment. J'ai fait 9 ans de contemporain, mais au milieu de ça, sandwich, McDonald's, 3 couches, je suis allé écouter le free jazz et j'ai surtout acheté des disques. À l'époque, il n'y avait pas de CD, c'était les LP, les noirs on appelle, disques noirs. J'allais acheter ça sur les quais. Personne ne me disait. Dès que je voyais un cover, la couverture, avec un bassiste, Slam Stewart, qui joue avec l'archer, mais moi je suis plutôt une bassiste arco, et swing, il swing avec l'archer et la voix. Possible. Mais tous les, évidemment, tous les Mingus, tous les... Dès que je voyais Paul Chambers, Major Hawley, tous ces Round 4, j'achetais les disques. Mmh. Seul. C'est pas quelqu'un qui m'a dit « Attention, Joël, avec cet instrument, la contrebasse, le bass, on dit en anglais, la contrebasse est essentielle. » Pourquoi j'ai été rue Saint-André au Riverbop? Le Riverbop, dans les années 70 aussi, au milieu 75 ou 17, j'ai écouté le jazz. je me mettais, alors il n'y avait pas beaucoup de nanana, je me mettais du côté du bar, je buvais je sais pas quoi, pas un whisky plus tard, oui, mais maintenant, je me mettais de côté, je buvais un jus de fruits, et j'écoutais le jazz, j'écoutais Kenny Clarke aux drums, JF à la basse, Jean-François Kenny Clarke, Chautang. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, tiens, il est bizarre le bassiste. Il joue pas à l'archer, il joue finger, il joue avec les doigts. Tu crois pas que le professeur de contrebasse au Conservatoire de Paris aurait pu me dire, hey Joël, fais attention quand tu vois une affiche, tu vois trio, ou else, piano, sax et basse, ou piano, basse et drums, ou else. Jazz, donc, jazz, straight jazz, on dit en anglais. Le jazz, presque classique maintenant, qu'on appellerait presque classique. Va écouter! Non, non, non. Je me suis démerdé seul. Voilà ce que j'allais dire.
Eh ben ouais. Tu as collaboré avec nombre de prestigieux compositeurs de musique contemporaine. Tu as cité Cage. Alors, les auditrices et les auditeurs en ont marre parce que ça fait plusieurs fois que je dis ça, moi. J'aime bien citer l'exemple de Ligeti. Tu vois, qui, quand peut-être des gens entendent parler de Ligeti, ils vont dire, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est difficile, et c'est là où je veux revenir. Or, moi, je dis souvent que bah, si t'écoutes la musique de 2001, Odyssée de l'espace, tout le monde adore, tout le monde trouve ça super, et c'est le même.
C'est évidemment. Le... Donc, tout, c'est Ligeti, la musique de Ligeti.
Alors, je voudrais quelques mots de ta part sur cette idée de musique difficile, qui serait soi-disant difficile, pas accessible. Moi, je pense qu'on a d'autres... Moi, j'ai personnellement d'autres difficultés dans la vie que d'écouter de la musique. Moi, ça me pose pas...
C'est-à-dire, on a toujours pensé, on le pense encore maintenant, j'imagine, parce que je suis plus dans ces musiques-là. Je les ai ingurgitées, je les ai avalées, je les ai...
Ouais. Ceci dit, on va me dire ça aussi pour les musiques improvisées. Hein.
Mais on arrivera après à la musique improvisée. D'accord. Mais je te parle, tu me poses une question, je te réponds à cette question. On a toujours pensé que ces musiques-là... intellectuel, difficile, soi-disant, c'est pas marginal, je cherche un autre mot, élitiste, c'est complètement faux. La liberté, c'est un sujet immense ou insondable. Quand même, on a cette liberté de s'asseoir dans une salle, être curieux, et prendre, écouter, entendre, voir. Il y a Rothko en ce moment à Paris. Ouais, c'est complètement l'abstraction. Et même si on n'a pas le langage ou on n'a pas sincèrement et directement à la compréhension, mais peut-être tu peux être éveillé et te bouger les fesses. Et 2 ans après ou 5 ans après, tu dis merde. Ou je me rappelle, j'ai écouté un truc là. Oh, ah, je comprends maintenant. C'est ça vivre. C'est pas. On peut écrire son premier film à 82 ans ou son premier roman à 72. N'est-ce pas? Il n'y a pas de loi, comme il n'y a pas de vérité. Donc, cette chose, soi-disant, ça serait difficile. Oui et non. Oui et non, parce qu'elle est moins harmonique, elle est moins mélodique. Mais on a eu toute une époque, et c'est en recherche. C'est vrai que le domaine du son, là, je ne parle pas de musique, je parle de son, a été beaucoup plus loin que dans la danse ou le théâtre, par rapport au verbe et au texte, ou à la danse et au mouvement. C'est vrai que le son, les musiciens, parce que arrivent plein de choses dans la musique. Il y a le rock, avec leurs pédales, le noise music. À l'époque, il y avait Pierre Schaeffer, il faisait des... Il déchirait un drap devant un micro, dans une certaine vitesse. Ça faisait... Et c'était un bout de drap, ou du papier, il froissait du papier. Et c'était... Tous ces choses-là, c'est des gens qui ont chercher, mais sans l'idée de se positionner en hiérarchie. Non, c'est que le son, mais vraiment, c'est l'univers du son, et je tiens à insister, moi qui ai travaillé 10 ans avec Chelsea, qui disait, il en a dit des kilos, celui-là aussi, comme Varese, ou comme Cage, ou Duchamp, tous ces gens qui ont dérangé. Vive le dérangement. On sait bien de déranger et d'être subversif. Voilà, au moins, je sais pas quoi, il y a des vibes, ça bouge comme ça. Vive la subversion, quelque part. Sinon, on est calme, on regarde la télé, on a 4 voitures et on va à la pêche le week-end. Je m'excuse, je suis direct, c'est ainsi. Chelsea disait, Giacinto, compositeur à Rome, j'ai rencontré dès les années 78. Il faut que je me rappelle, parce que je dois le penser, tout ça est en anglais, mais je dois le penser en français. La musique a besoin de son. Mais le son n'a pas besoin de musique. C'est extraordinaire, je pourrais pleurer tellement. C'est fantastique. Voilà, déjà ça, ou Cage, avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi. C'est les protagonistes, hein, pas simplement de son, de musique, de pensée, là, presque au sens existentiel, au sens philosophique, au sens de cette raison d'être sur terre et de marcher, de fonctionner, de savoir un peu qui on est à un moment. C'est ça aussi, l'individualisme. Aussi, il existe cette... devenir un individu. C'est important de devenir un individu. Chelsea qui disait « Laissez les sons ce qu'ils sont ». Il n'y a plus de hiérarchie, là. Il faut aimer. Il faut traverser ce truc au lieu de juger, critiquer. Ah oui, alors ça, oui, alors c'est une musique difficile. Oui, mais alors, je ne comprends pas. Mais c'est bien de ne pas comprendre. Ne comprends rien. Tu comprendras dans 10 ans, peut-être, où ça va te faire éclater là-haut là, les méninges et tu vas réfléchir. Tu vas te poser des questions qui touchent, évidemment, la politique ou le politique. Pas la politique. Moi, je n'ai jamais fait de politique, quelque part. Quoique. Mais le politique. Il disait aussi Chelsea, non, pas Chelsea, Cage, laissez les sons ce qu'ils sont, mais il disait une chose aussi fantastique, laissez les sons ce qu'ils sont. Ça rejoint Chelsea, c'est que la musique, au fond, c'est des sons, c'est comment on organise des sons. Donc tout est possible. Pourquoi j'enregistre avec Serge Tessoguet, j'ai rien à voir avec le rock. Il m'a dit, de toute façon, t'es plus punk que tous les punks, il m'a dit. Donc, c'est un grand... un super compliment. Donc voilà, le contemporain, il existe, il n'est pas contemporain, il est de notre époque, il est là, de notre siècle. Pourquoi la pyramide devant le Louvre, qui est le Louvre, d'un coup on voit Louis XIV, je ne sais, qui est le Louvre, ou Bonaparte, on met cette pyramide en fer, parce que les matériaux ont changé. Les matériaux ont changé, là, au XXe siècle, et qui plus est, au XXIe siècle. Mais c'est ça, c'est ce domaine, je dirais, naturel, c'est normal. Donc, les gens, peut-être, le public, ont à faire un certain effort, au lieu de critiquer. C'est ça que je soulève. Voilà.
Thank you.
Alors, nous venons d'écouter Mac Nongan, composé par Giacinto Chelsea, et interprété par Joël Leandre. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette pièce ou sur la musique?
Sur la musique de Chelsea, mais c'est là, Chelsea était tellement, c'était tellement unique, personnel, tellement bouleversant. Sa musique est bouleversante d'ailleurs. Elle parle du son d'ailleurs. Là, jouant, on devient son. C'est comme si tu devenais son. Son, toi-même, ça s'arrête là. Et c'est la force de cette musique qui peut s'écouter. Elle n'est pas intellectuelle. Il le disait toujours, tout sauf intellectuel. Tu vois, c'est comme Tintin, de 7 ans à 77. Tu peux écouter du Chelsea. Il a travaillé sur la microtonalité. Et c'est un des protagonistes. Il y a eu Ligeti avant. Effectivement. Et puis Chelsea à Rome, tout le monde allait le voir, tous les Villa Medici, ces jeunes compositeurs, je vous parle là, je te parle de l'époque, je sais pas, 70, pareil. Ils allaient voir Chelsea. Moi, j'ai eu la chance, la joie, toujours. La vie, c'est ça, c'est être là où il faut, tu rencontres, et tu t'aperçois plus loin, plus longtemps, des années, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qui te construit, chaque individu? C'est ainsi, c'est la vie, on parle de la vie. J'étais à Buffalo, New York. J'avais reçu en 16 ou 17, un truc comme ça, une bourse américaine. Buffalo, New York, c'est un état de New York. Et j'ai travaillé avec Morton Feldman, qui est aussi un compositeur essentiel dans ce côté minimaliste et qui n'est pas la musique de Chelsea. Et il y avait un ensemble, ces musiciens internationaux, John Tilbury au piano, il y avait Robert Dick à la flûte, il y avait Franz Marie Yuttu au violoncelle, moi à la basse. On se retrouvait sur certaines partitions, parce que quand on reçoit un enseignement classique, on lit sans arrêt la musique des autres. Ça m'a questionné, c'est pour ça que je suis partie. Et j'ai cherché la mienne. Mais on est des grands lecteurs. Voilà. Donc, il a fallu monter du Chelsea. J'ai tellement été bouleversée, je crois que c'était pas Mac Nongan, pour aller vite. C'était Okanagon, qui est pour harpe, gong et contrebas. Une musique difficile, c'est ça. Et je me rappelle où je vivais là, chez un pote, enfin un musicien comme moi, au deuxième étage, un pianiste étonnant, Ivar Mikhachov. Il me dit, Joël, tu restes là, je parle un peu français, parce que j'arrivais, je savais même pas dire « Hello, how are you, I would like », je sais pas quoi, c'était un désastre. Je parlais pas anglais du tout, maintenant je parle couramment. Et il me dit, ah bon? Parce que j'ai dit à cette musicien, j'ai dit, mais c'est qui ce compositeur? C'est quoi? Il dit, tu connais pas le comte? Parce que c'était un aristocrate, Chelsea. Le comte d'Alial et Chelsea. Bon. J'ai dit, non, mais il dit, bah, c'est simple, tu arrives à Paris quand tu as fini la bourse, tu l'appelles. Ce que j'ai fait. Non, je suis un peu, je suis barré, donc je fais mes trucs. Et j'ai appelé Chelsea, Giacinto. Jamais j'oublierai. Donc j'avais juste sa musique, évidemment. Il me dit, vous êtes qui? Il avait un accent italien, mais il parlait parfait italien. J'ai dit, je suis Joël Leandre, contrebassiste, j'ai joué votre musique. Vous êtes où? J'ai dit, je suis à Paris. Et il me dit, vous venez quand me voir? Et le mois d'après, j'allais le voir à Rome. 10 ans, j'ai été à Rome pour travailler ses partitions. Parce qu'il ne donnait pas ses partitions. Il ne donnait pas ses musiques. Il ne donnait qu'à certains musiciens, et presque musiciens neufs. Beaucoup de ces interprètes, jouant du Chelsea, vous parle des années fin 70, étaient des femmes ou des jeunes femmes ou quoi. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire sur Chelsea, donc il faut mieux que je coupe. Donc sa musique, elle est, oui, transcendante. Il était intéressé par ça, par la transcendance, ça s'appelle ça. Il était traversé, ça s'appelle ça. Je ne vais pas développer. Et sa musique est d'une profondeur, c'est très, très, très émouvant. Mais même ses musiques orchestrales, il a très peu écrit pour des grands ensembles. Il a beaucoup écrit pour les cordes. Et c'est le son qui est traité autour du son, je dirais presque l'écorce, si on voyait un arbre ou quoi, ou une peau, l'écorce du son, le pouls, il nous disait, le pouls d'un seul son. Et vous avez toute l'histoire de la musique. Oh, tu entends ça, tu te réveilles ou tu réfléchis, quoi. C'était Chelsea. Il était très, très, très personnel. C'était très bouleversant. Et puis, on allait manger un tartuffe sur la pièce. Mais allez, viens, on va manger un tartuffe, Piazza Novara, je ne sais plus quoi, à Rome. Et voilà. C'est très. C'est pas dogmatique comme il y a eu à Darmstadt. Tous ces compositeurs, grands ou pas grands, moyens ou je ne sais pas quoi, 1m40, on s'en fout. Mais qui ont renversé le truc, Stockhausen. Pas Ligeti, justement, il était plus tard, mais pas les quatre mousquetaires qui arrivent aussi d'Amérique, je vais te les nommer après, mais Stockhausen, Boulez, Berlioz, tout ça, c'était dogmatique d'Armstadt. Et arrivent les quatre, moi, ma version, les quatre mousquetaires qui foutent un bazar avec la musique graphique, avec des... Il y avait des points, il y avait plus de clés, il fallait, il donnait des libertés, il y avait des petites brackets, on dit des petites parenthèses où, où on devait prendre 4-5 sons parce qu'il y avait quand même une partition, elle existe toujours d'ailleurs, ces partitions. Earl Brown, John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff et un autre qui me vient, reviendra, un pianiste et compositeur aussi. Ils arrivent à Darmstadt, mais ils foutent le bazar. Et c'est bien que ces gens soient arrivés à Darmstadt. Donc, Chelsea n'était pas dans ce registre-là et n'était pas non plus aussi beaucoup dans ce registre-là. Mais quand on travaillait avec Jacen, il te donnait, c'est quand même étonnant, de donner et toutes ces hiérarchies du compositeur qui a le savoir, puis nous, performe, musicien, on doit se la fermer, évidemment, on doit se la fermer puisqu'il y a des hiérarchies. Et, mais quand même, il te disait, j'ai dit, Jacen, j'ai reçu McDonald's, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Tu en fais ce que tu veux. Tu connais beaucoup de compositeurs, toi qui dis. Donc, c'était aussi un improvisateur, Chelsea, un grand improvisateur, improvisateur au piano. J'ai beaucoup de choses à dire, j'en dis déjà pas mal, sur Chelsea. Donc, il y avait cette ouverture. En musique, on appelle ça open form. C'est-à-dire, le musicien travaille évidemment avec le compositeur, mais il a sa part créative.
On y reviendra. Quand on va parler du...
On va parler pendant 4 heures.
Du tintet. Et alors, bon, on a commencé l'émission avec un solo.
Oui.
Et je crois que, alors peut-être c'est pas le premier, mais un de tes premiers disques contrebassiste est également un solo. J'aimerais savoir, est-ce que c'est évident ça, de jouer en solo à la contrebasse? Comment c'est venu? Ça me semble...
Alors, j'ai 1300 choses, 84 à dire là-dessus, évidemment. De toute façon, j'ai réfléchi, puis j'ai l'âge de dire ce que je pense. Parce que voilà, c'est du vécu. Dans l'histoire de pays, pour passer, être vraiment précise, monarchique dont nous venons, roi et reine qui avaient la bourse, d'ailleurs c'est un peu pareil, il y a des ministères maintenant, ils ont la bourse, et les décisions culturelles, parce que c'est ça, décisions culturelles. On va voir ça, mais on va surtout pas voir. Parce que la création, c'est peut-être aussi une clarinette, une roue de bicyclette dans une petite galerie extraordinaire. Mais on va pas voir ça. On va surtout voir la philharmonique en ce moment de ça. Voilà. C'est ça, les décideurs de culture. Donc, monarchique, les pays monarchiques, mais là, on tombe dans les siècles passés. Hein. On parle le 18e, le 17e, le 16e, le roi et reine. C'est eux qui décidaient. Et on écrivait seulement pour les instruments nobles. Si on fait un peu l'histoire de la musique, ce que j'ai fait, tu lis, tu soulignes, et il y a des instruments non nobles. Ça, il faut savoir. Et tu sais ça pour le reste de ta propre vie. Alors, les nobles, évidemment, c'est le piano, instrument roi, violon, violoncelle, flûte un peu clarinette, parce qu'il y a des concertos de Mozart, clarinette, la voix, mais ça c'est les solistes, mais la voix et tout. Et les instruments non nobles. L'alto, pas le sax alto, mais l'alto dans le quatuor à cordes, il est pas noble. La contrebasse, c'est gros, c'est tu vois, tu sors en armoire, c'est grave. Tu restes à la cave, quoi. Reste à la cave. Tais-toi. T'es grave. Tais-toi. Et moi, je me suis pas tue. Voilà. Quand j'arrive au conservatoire, j'ai 17 ans et demi. C'est jeune, hein. Mais c'est très jeune. Une jeune femme. J'ai fini mes études à 20 ans et demi. C'est jeune aussi. Et à 20 ans et demi, je l'ai déjà dit, j'essaye de gagner ma croûte. Donc, je me suis posé toutes ces questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a des concertos bidons. C'est vrai qu'on a des concertos un peu, je sais pas quoi. Moi, j'appelle ça bidon. Des concertos mozzarella, parce que c'est souvent des Italiens. Dragonetti, Koussevitzky, enfin, lui, il était russe. Mais il y en a d'autres. Alors, j'appelle ça les concertos, je sais pas quoi, pasta à la tomate. Donc, mais ça te donne une technique. Ça approche l'instrument avec une précision. Une technique, c'est pas une vélocité, mais une technique. Mais c'est très peu, on a oublié, c'est un instrument oublié, parce qu'il n'est pas noble. Donc, les compositeurs de ces époques, je viens de le dire, monarchiques, enfin, les époques en Europe, quoi, en Occident même, on n'écrivait que pour les instruments nobles. Voilà. Donc, ça m'a posé des questions, j'ai fouillé, j'ai cherché des partitions aux États-Unis, j'en ai trouvé aux États-Unis. Et j'ai provoqué des compositeurs, parce que j'ai reçu. Je le sais, ça fait partie de, je sais pas, ma bio quelque part, bon bref, 41 partitions. Donc, je suis allé voir 41 compositeurs et une, parce qu'il y a Betsy Jolas, il y a Edith Canachisi, il y en a d'autres qui me reviennent pas en mémoire. Et j'ai dit, vous avez écrit pour contrebasse? Non, non, non. Et j'ai dit, pourquoi? Oh, ben, je sais pas, c'est un instrument qui est gros, qui y a des longues cordes, et puis il y a plein d'harmoniques, des gens, même des compositeurs que je ne veux pas nommer, avec une crainte. Donc, on n'a pas écrit. Alors, je parle ça des années 70. Après, ça a commencé. Je crois que le bassiste de l'Intercoin à l'époque, Emmanuel Stoll, c'est pas Emmanuel, Frédéric Stoll, il a passé quelques commandes. Jean-Paul aussi, Céléa, a passé quelques commandes. Moi, j'en ai passé beaucoup. Pour ouvrir le répertoire de cet instrument oublié. Voilà. C'est pourquoi? C'est parce que bah, j'ai une grande gueule, peut-être.
Alors, on va écouter. Ah non, non, si je voulais. Bah, tu parles de grande gueule, justement. Comment est venue ta voix dans ta musique?
Naturelle. C'est un oubli de l'éducation française, mais pas que, et d'une culture européenne. Quand tu vois, même dans le jazz, moi j'ai des souvenirs de Who Else, Kay Jarrett, Montand, et chantant tout en jouant, chose qui est fluide dans la culture indienne, dans la culture arabe, dans la culture chinoise, où la voix est naturelle, donc naturellement. Il y a plusieurs années, je ne me rappelle pas. J'ai ouvert le bec, je dirais, par des partitions aussi contemporaines où on m'a demandé déjà de la voix. Cage, par exemple, The Wonderful Widow of 18 Springs. J'avais entendu Cathy Berberian dans ce fameux Buffalo où j'étais pendant un an, un état de New York. J'ai entendu Cathy Berberian, je fais ça, j'ai acheté la. C'est cette curiosité. J'ai acheté la partition parce qu'elle faisait ce song-là, une chanson, song en anglais. Pièce donc de musique de John Cage, je l'ai trouvé, j'ai fait une version pour contrebasse. Et j'avais demandé l'autorisation, il était très permissif, l'autorisation à John Cage. Ah, oh, il était ravi, lui, il était ravi. Cage, il riait tout le temps, Cage. Is it not great, Joel? Is it not great? Tout était great. Tout était grand, quoi. Great, ça veut dire sois toi, fais quelque chose. Ça, j'ai quand même appris ça, c'est quand même... Est-ce que j'ai encore dit hier, il y avait une table ronde à son divers, avec beaucoup d'Afro-Américains autour de moi, et de nous, on était 4-5, ils m'ont donné ce sujet de réflexion, et donc de travail, je suis une travailleuse. Ça ne s'improvise pas, ça, justement. De do it, go it, be you. Ça, je pense que tout le monde, même en France, on peut comprendre ça. Fais. Vas-y. Sois-toi. Alors, pour être soi, il faut beaucoup apprendre. Et il faut beaucoup désapprendre. Et là, on commence un peu à dire, bah, écoute, moi, j'aime les bananes, mais j'aime pas les pommes, tu vois. Mais t'as goûté les pommes. Faut goûter les pommes. Ça traverse la pomme. Mais tu as du choix, c'est vivre, c'est choisir. Parce que vivre, c'est choisir. Sinon, c'est le bazar total. Moi, je veux bien l'anarchie. Mais dans cette fameuse anarchie, il y a des organisations qui se organisent aussi.
Eh oui.
Et vivent l'anarchie.
Eh oui.
Voilà.
D'aucuns disent l'anarchie, c'est l'ordre. Sans l'autorité.
Mais voilà.
Bah oui. Bon, allez, on écoute ton duo avec Serge Tessoguet.
Voilà. Oh,
toutes les subventions, bien les impôts. Oh là là, il faut bien payer les impôts. Ah, il y a quelques jours, oh, oh là, oh là, on va payer les impôts. Oh, 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 oh.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et aujourd'hui nous recevons Joël Léandre. On vient d'écouter ton duo, Joël, avec Serge Tessoguet. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre ?
Ah, c'était magnifique, enfin, il faut être prêt, toujours pareil, il faut être prêt, c'était ce moment-là. Je jouais en duo avec Matt Maneri, je ne me rappelle plus, je crois, mince, c'est pas son d'hiver aussi. Enfin, bref, un festival, je joue très peu en France. L'année dernière, j'ai fait 4 concerts, je vais manger des patates et des pâtes. 4 concerts, je ne sais pas, bon bref, c'est tout maigre hein, pour gagner sa vie. Heureusement que je joue à l'étranger depuis de très longues années, parce que c'est un des petites niches de ces musiques-là. J'ai des voilà potes, potesses, des amis aussi. On se renvoie à l'ascenseur, on s'en parle, vous partez tous les 4-5 jours, tu pars sur les routes, on the road, tu files pour ta liberté d'une certaine manière, bien sûr, mais bon, bref. Donc, on joue, on finit le concert, du monde, tout ça, et les bassistes, on est les derniers sur le plateau, avec les drums, parce que les trompettes, les sacs, les pianos, tu vois, ils ont fini, ils disent, ok, see you on the corner, we go to drink a beer, tu nous attends, nous on va boire une bière, et toi, plouc, tu restes sur le plateau parce qu'il faut enlever l'ampli, le jack, ranger, enlever le tout, mettre la housse. C'est les drums et les bassistes, les derniers sur le plateau. Donc, j'étais dernière sur le plateau. Matt était déjà sorti au bar buvant une bière. Et arrive Serge, je savais pas. Je connaissais le nom quand même de Noir Désir, mais bon, c'était pas totalement ma musique. Il vient vers moi, il me dit, oh, j'ai tellement aimé, il me dit comme ça. Et il me dit, j'aimerais tellement travailler avec vous. C'est joli, non ?
Ah ouais, super.
Bah oui, parce que moi j'ai appris des gars. Hein. Ça, c'est bien que les gars, ils peuvent apprendre des nanas, va savoir. Ouais, on sait jamais. Et on est parti le mois d'après, on s'est rappelé. Puis on est parti dans un studio, une salle de, je sais pas, théâtre ou quoi. On a enregistré, travaillé, joué, improvisé, parlé, buvant, tout. Une semaine, petite semaine. On a fait notre premier disque, on a fait un deuxième, et là, bientôt, on veut faire un troisième.
Ah, super.
Dans deux, trois mois, avec nos libertés, nos carnets. Donc, c'est tout. Donc, qu'est-ce qui se passe, là ? C'est que tu rencontres une musique autre, mais une musique, voilà, c'est l'écoute, hein. Et où on se rend compte, c'est dans l'improvisation. On peut parler rapidement de l'improvisation, parce que l'improvisation, il n'y a pas de hiérarchie. Je vais te dire un truc, et je suis persuadée, parce que j'en ai l'âge, et j'ai beaucoup bourlingué, puis c'est pas fini. Enfin, on verra, mais c'est pas fini. C'est comme ça. Cette musique-là, ce sont des rencontres, ce sont des risques. C'est une musique où on risque. Mmh. C'est une musique où il y a un bazar total à organiser, c'est une écoute. Il n'y a pas de hiérarchie dans le sens. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 25 ans et tu vois un musicien qui en a 68. Il n'y a pas d'idiome, il n'y a pas de style. Il y a... Voilà, bah écoute, si on revient, parce que je parle de Serge, mais lui, il a son background, il a son aventure. Moi, j'ai la mienne. On joue, on improvise, c'est la seule musique qui reste au monde. Et c'est pesant quand je dis ça. Je répète, c'est la seule musique qui reste au monde quand on improvise. C'est un art. L'art d'improviser. C'est presque devenir l'autre. Donc si tu es ouvert, t'écoutes. Et tu vas pas jouer ce que tu connais. Quand tu improvises, tu fais de la musique avec l'autre. Faire de la musique avec l'autre. Ouais. Donc il est devenu un peu moi, je suis devenu un peu lui, et on s'écoute et on apprend et on grandit comme ça. C'est ça le sujet de l'improvisation. C'est une jubilation, c'est une cérémonie de la vie. On prend son instrument, c'est une musique instrumentale. Tu sais pas ce que tu vas faire, c'est le ravin, c'est le funambule. Ah, ah, tu fais, tu sais pas, et tu es avec l'autre. Deux trios, c'est une musique chambriste quelque part. Parce qu'après, il y a trop de monde pour l'écoute profonde, pour vraiment entendre ce que l'autre fait, tout instrument. Et tu joues. Et c'est extraordinaire. Mais cette chose-là, on ne veut pas l'enseigner, on l'enseigne difficilement, on ne veut pas trop en parler, parce qu'on garde ces hiérarchies. Évidemment, le maître, tous ces conservatoires, tiens, le maître et l'élève. Donc, on ne veut pas trop que le musicien... L'improvisation, c'est un sujet de, oui, de liberté, de devenir un individu, quoi. Dans ta bourrasque, dans ton marabout, tu te connais que mieux, de mieux en mieux. Et c'est, ouais, c'est la jubilation qui l'emporte. Moi, je suis sur les routes et j'ai beaucoup enregistré. J'aurais beaucoup enregistré. Si la musique est belle, elle doit sortir. Sinon, on n'a que des musiques institutionnelles qui nous obligent à la garder ses hiérarchies. Donc le musicien, il doit se la fermer parce que tu as le compositeur au-dessus. Donc tu abaisses, tu dis « Ok, d'accord ». Et à un moment, c'est tout ce parcours. Je parle un peu de moi, évidemment, je peux faire que ça. Tu parles de ce que tu as traversé et connais. À un moment, tu cherches, tu fouilles et tu comprends des choses par toi-même aussi. Et je crois en ça. Dans cette aventure. L'improvisation développe plein de choses, mais un sens politique, civisme, un bazar total de connaissances de toi. Et c'est une musique risquée. Mais qu'est-ce qu'il n'y avait pas de risque dans la journée ou dans la vie? Mais on s'emmerderait, mes amis.
Alors, justement, moi, je voulais te, aussi que tu nous dises, tu approfondis sur l'improvisation. Moi, je t'ai vu jouer avec deux jeunes musiciennes au festival Alarme de Berlin en 2018, Mathilda Rolfson et Elisabeth Harnik. Et j'ai trouvé ça excellent, et j'étais même venu te le dire.
Ah d'accord, en France. Fait tellement de choses dans l'année que je...
Ouais, non, mais ça va durer 10 secondes.
Oui, oui, Elisabeth, on travaille, ça fait plus de 10 ans ensemble, on a plusieurs groupes, là on atteint un 10 dans ces fameux nombres drôles de disques, en trio avec le drum de Slovénie, Zlatko Kosis. On a un trio, on a fait quelques tournées, on en a une prochainement en juin. Elisabeth est une musicienne extraordinaire, très créative. Et Mathilda, je crois.
Mathilda, peut-être, oui. Ouais.
On devrait se retrouver en répétition avec un projet danse et musique. Il y aurait donc Mathilde et moi à la basse.
Alors, ce que je vais te dire, c'est que moi, à cette période, j'étais un peu là des musiques improvisées. Ah. Parce que il y avait un espèce de courant minimaliste, tu sais, où il y avait les mecs qui trompent.
Oui, il fait rien.
Voilà,
il a travaillé 20 ans sa trompette, il fait.
Voilà, exactement. Et moi, ça commence à me faire chier, en fait. Je me dis, putain, mais sans un son, là, vas-y. Et bon. Et alors, ce concert m'avait redonné un peu de. Ah, putain, c'est quand même bien l'improvisation. Tu vois. Et est-ce que tu as vu cette évolution-là? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Bien sûr, j'ai vu.
Je sais pas si on
évolution,
peut dire.
Je sais pas si c'est même en termes d'évolution. Ces familles sont des familles, sont des tribus, tu sais. Ouais. Les jazz en France et ailleurs n'aiment pas le free jazz. Les jazz people, les ceux qui jouent du jazz, qui jouent le swing et la mélodie, ils vont critiquer ils ou elles, mais c'est beaucoup ils. le free jazz, la free music, c'est des Rebellés qui trouvent, c'est les Anglais qui trouvent ce terme, qui nomment ce sujet de l'improvisation, c'est Derek Bailey avec sa guitare. Et toute l'équipe autour, John Stevens, Eddie Prevost, il y a toute l'équipe anglaise. Et évidemment, c'est le même courant après les années 60, peut-être même avant, en Allemagne. Tu as les ancêtres, presque j'allais dire, Brosmann qui viennent partir. Tu avais Kowald qui est parti très jeune. Tu as un frère, Kowald, je joue avec lui en 78. Alors tu vois, en Angleterre, ça fait un paquet. Donc j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc il y a un courant comme ça, européen, en Suisse. Il y a Irène Choiseul, c'est la grande lady, the great lady, la grande lady au piano. Dès les années 60, elle joue avec les couleurs, elle joue du piano comme ça. Et c'est la seule femme en Europe, sur les routes, dès les années 60. Et aux États-Unis, t'as Carla Bley, t'as, of course, Marie-Lou Williams, jazz aussi, et la femme de Alice, on dit Alice, mais Alice Coltrane. Mais Alice a été rarement avec un band et en tournée en Europe. Carla Bley, qui est partie récemment, grande musicienne, compositrice, avec plein de d'humeur, je trouve. J'aime beaucoup son travail. Il n'y avait pas de femme. Donc, je ne sais plus c'était quoi ta question.
Eh bien, là, tu es partie sur les femmes, on va
non,
en parler.
Sur les femmes, ça va arriver, mais ta question...
Non, là, c'était sur le minimalisme, le truc de...
Oui, donc il y a des styles. Il y a des styles, il y a des familles. Et j'ai traversé ça, évidemment. Alors, je ne suis pas con, moi, j'oserais dire, je suis un peu Cajun, un peu beaucoup sur les bords. Freedom, liberté, si tu aimes... Moi, j'aime aussi. J'ai joué de musique contemporaine, tu fais... Tu attends, tu as le temps de prendre l'avion, tu descends à Marseille, tu attends... Tu attends encore, tu as le train, tu sais pas, tu t'arrêtes à Lyon. Là, je sais pas quoi, t'as le temps de... Bon, bref, prendre le métro, pourquoi pas? Les gens cherchent, pourquoi pas? C'est difficile, la feuille blanche. Hein, moi, je compose aussi, donc c'est difficile, la composition, je dirais. Donc, ça, c'est des styles différents. Et c'est vrai que cette époque où ce mouvement, je sais pas si ça a été un mouvement, je sais pas ce que c'est la non-musique, pour moi, c'est l'aliénation totale. Et tu entends rien. Alors, tu peux jouer, que je viens de dire, une musique assez conceptuelle, mais quand le concept ou l'intellect, dont le concept est un peu semblable, hein, l'emporte sur ces musiques qui sont gestuelles, qui sont body, comme on dit, de corps et geste. De toute façon, la musique, c'est du corps et du geste. Et c'est un instrument. Et qu'il n'y a plus rien, donc ça veut dire que tu es bouffé, et je le critique dans ce sens-là. Si je ne suis pas con, mais je peux le critiquer. Tu es bouffé par le concept. Donc, tu es où alors? Tu es où dans le son ou dans la musique? Mais j'ai écouté des concerts dans des festivals étrangers dès les années 2000. Alors d'un coup, tu as un gars, souvent des gars, on en parlera tout à l'heure, il choisit trois sons. Mais pendant une heure, tu es autour de trois sons. Tu fais... Tout. Tu attends, tu prends aussi l'avion. Bon, bah. Non mais... Pourquoi pas? C'est ce souvenir de Nick Herzdorf, un festival en Autriche. Je ne vais pas nommer les musiciens. Il y avait une fille au potard, là, une sorte de... Comment on appelle au potard? De table.
Ouais.
Table avec des boutons. Juste comme ça. On était, je me rappelle, on était avec Evan Parker et Barry Guy. Hein, jamais j'oublierai. On était derrière, on écoutait, parce que nous, on avait joué, on restait un jour ou deux de plus. Une heure, on passe, ou 50 minutes. Écoute, en 50 minutes, il y avait trois sons à la base. Il y avait un bassiste, il y avait un gars à la trompette qui faisait... Okay. 50 minutes! Et on était derrière le dos, sur le stage, de la japonaise musicienne avec les potards. En 50 minutes, à un moment, c'était... Et à un moment, on a vu le mouvement du dos de cette musicienne, elle a sûrement fait une sorte de crescendo. Le dos s'est un peu baissé, elle doit avoir fait... C'est tout. Mais tu te flingues, tu meurs, tu vas au magasin, t'achètes un fusil. Bonjour, je voudrais une balle, juste une balle, s'il vous plaît. Tu te flingues, t'achètes, tu vois, un truc... Ça va pas, là ça va pas. Parce que faire sonner ton outil, sonner comme une cloche, c'est cette jubilation. Tout instrument. Mais voilà. Oui. Mais liberté chérie, il y a encore, hein, cette sorte de mouvement. Il y a encore. C'est l'annihilation totale pour moi, mais bon.
Mmh.
Liberté.
Ah oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. Bon, allez, on va écouter les Diaboliques.
Ah. La
enfin la
I'm not putting up this anymore. This is the last time. No, 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 this is the last time. No, 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 look. No, I'm sorry. No, sorry. So you're going to have to leave. You know, I'm sorry. I can't have you in here. If you're going to behave like that, I'm afraid you're going to have to leave, madam. No, 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 no. I just, I won't. No, I can't. I can't. I can't do this anymore. No, no. I just can't. I can't. I can't. I can't. You know, I just can't put up with these hysterics and this drama all the time. You know, I just want a nice, mellow relationship. I really don't want to be up all night arguing. I really, really don't. I just, look. Can we talk about this tomorrow? No, no, please. Can we talk about this tomorrow? I've got to go to work tomorrow. I really can't. No, I know you're upset. I know you're upset. But really, are you not seeing the therapist anymore? I really think you should go back to that therapist because she was very nice. She was very, very nice. And she wasn't costing you too much, really. But, you know, it's just not possible. No, no, I'm sorry. It's just not possible. You're going to have to go. Please. What do you mean, yeah, yeah, yeah? What do you fucking mean, yeah, yeah, yeah? What the fuck do you mean, yeah, 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 yeah? You're just going to fucking walk out on me, are you? You what? You come back here this minute. You're not leaving me like this. You're not leaving me. You're not. Go, no. No, 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 no. Do something. Tell her. No.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et nous recevons aujourd'hui Joël Léandre, on vient d'écouter Les Diaboliques. Alors Joël, on va parler des femmes, et dans ses musiques improvisées, jazz, et Maggie Nichols, il y a quelques semaines, nous a parlé du Feminist Improvising Group, alors toi tu n'en faisais pas partie.
Non.
Est-ce que c'est pour des raisons géographiques, parce que elles étaient plutôt en Angleterre bien.
C'est anglais, oui.
Et est-ce qu'il y avait un équivalent en France, et où étais-tu à l'époque?
Non, il n'y avait pas d'équivalent en France, du tout. J'avais eu avant que les Diaboliques se nomment, d'ailleurs les Diaboliques, on a eu avec Irène, parce que j'étais écouter 77 ou 18, je ne me rappelle plus, longtemps, The Fig, dont j'ai jamais fait partie. C'était un événement, les nanas qui jouaient, qui... Elles faisaient leur bazar et tout, c'était 7, 6 ou 7. Il y avait Irène au piano, c'était un projet, et un projet plutôt, des filles anglaises. Une fille à la trompette, une fille à la guitare, il y avait Georgie Bourne, I remember, au violoncelle. Mais moi j'étais public, j'ai dit... Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le free jazz que j'avais écouté plus ou moins à la même époque au centre américain, que des gars évidemment, J'étais là, toujours pareil. Cette curiosité, il se passe des choses dans la ville, on va voir ce qui se passe en musique, mais ça peut être en danse ou en théâtre. J'ai beaucoup travaillé avec des gens de théâtre aussi. Et avec des danseurs nombreux. Donc j'étais là, et Irène était prodigieuse. Et Maggie, donc je me suis approchée d'Irène. Mais avant ça, j'étais en duo avec Annick Nosati. Il ne faut pas oublier Annick. Ouais. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'elle est morte très jeune. Une voix complètement unique, barrée, tout habillée de noir. Elle était breloque, elle avait une voix, c'était immense. On passait à Dunois. Tout ce qui était musique créative, c'était rue Dunois. Tout se passait là. Musiciens européens, Lol Coxil, tous ces musiciens. Derek est venu souvent. Il y avait très peu d'Américains. Bon, c'était rigolo, je le dis quand même. On y allait, on était mal payés. Bah, que merde. Et bah, on y allait parce qu'il y avait un restaurant vietnamien à côté. Oh pétard. Il faisait un pâté au crabe. On en mangeait deux tellement que c'était bon. Et on buvait des coups et tout. Et puis Sylvain, il venait nous chercher, enfin le directeur du théâtre Dunois, rue Dunois. Joël, les filles, il y a du monde, il faut venir. Ouais, on arrive. On finissait, on buvait des coups, pas mal d'ailleurs. On arrivait dans le backstage, enfin dans la loge, on s'habillait vite fait. Avec Annick, donc, je reviendrai au diabolique. Mais avant, il y a eu le duo avec Annick et moi. Deux femmes. Annick, elle jouait dans des sculptures bâchées. Elle avait un truc, on aurait dit, une tôle où elle se tournait le dos au public. Oh, une voix qui criait comme ça. Et on était un peu pépette, des fois, quand on passait là. Et elle arrivait dans le. On s'habillait. Et Annick me disait. Elle s'est pétée ou je sais pas quoi. Elle disait. J'ai plus de voix. Je dis, comment t'as pas de voix? C'est plein, il faut aller jouer. Non, je veux pas jouer. Elle me fait, je peux plus chanter. Elle me dit, c'était drôle. Enfin, bon, on est dans les fins 70. Hein. Donc, il y a eu ce duo. Et je suis allé voir 77 ou 18 ces filles. Il y avait donc, avant les Diaboliques, les Trois Dames. On a fait des concerts, les Trois Dames. On a fait plusieurs concerts. On avait joué aussi à Mulhouse. Mais c'était celui avec son chapeau, là, qui est Théronèse, qui nous avait invités. C'était les Trois Dames. On avait joué dans le sud de la France, où les gars, parce que dans le sud, c'est plus macho que peut-être dans le nord, j'en sais trop rien. Mais il y avait trois filles sur le plateau. Et après, il y avait Ibrahim, là, le pianiste, black, afro-américain, solo. Jamais j'oublierai, c'était plein à craquer. Évidemment, il ne venait pas pour nous, il venait pour Ibrahim. Et ça sifflait. Tu avais une partie du public qui faisait chut. Et tu avais l'autre partie qui applaudissait. Pendant qu'on jouait, je me rappelle, j'avais tourné, j'avais mis mon ampli. Ah, d'habitude, je joue numéro 2, j'avais mis au numéro 8. C'était les trois dames, c'est-à-dire Irène, Maggie et moi. Et, je ne sais pas l'époque et la date, j'ai été écouter les figues et j'ai dit à Irène, j'ai dit, oh, c'est super et tout. Puis elle m'a dit, écoute, on doit jouer, on pourrait jouer. Et c'est devenu, plus tard, on a joué un an ou deux, les trois dames. C'est pas devenu, parce que c'est pas la même chanteuse. Dieu sait si c'est même pas la même voix. Les Diaboliques. Voilà comment l'organisation, le début des Diaboliques. Et on a beaucoup joué. On a souvent joué.
Ah, je vous ai vu plusieurs fois. On m'a déjà dit qu'avant toi, il n'y avait pas trop. Enfin, des musiciennes, pardon, m'ont déjà dit qu'avant toi, il n'y avait pas trop de modèles auxquels s'identifier dans le jazz féminin. Comment toi, tu perçois ça? Et toi-même, quels ont été tes modèles, s'il y en a eu, si on en a besoin?
C'est une question fondamentale. Toutes les méthodes, même quand tu appliques de bien jouer ta clarinette, si tu vois des vieilles méthodes, tu achètes des méthodes même de 1875, le modèle devant la première page, souvent la photo en noir et blanc, c'est un gars. Bon, c'est un gars qui va, je sais pas, il y aura une position qui va jouer la contrebasse, il y a un gars qui va jouer le violoncelle, c'est un gars qui va jouer la flûte. Déjà ça à la base, basique, ni classique, ni on s'en fout de cette terminologie. C'est les hommes. Donc moi, mes podiums, mes exemples, mais à suivre ou à pas suivre, c'est après. Ont toujours, et ça continue d'ailleurs, ça a changé un tout petit peu, ont toujours été des gars, mais tu vas écouter, ou même les philosophes, les écrivains, les tout ça, je sais pas quoi, Elvis Presley, Monk, Beethoven, c'est que des gars! Que des gars, gars, c'est que des gars! Donc, nous, quels sont, moi je m'excuse, je suis pas un homme, je suis une femme, on a d'autres, ou proches, ou différents, mais, tous mes exemples, t'imagines, en tant que contrebassiste, ont toujours été des hommes. Toujours, toujours. Donc, j'ai compris ça très rapidement, quand j'ai fini mes études au Conservatoire de Paris. Et d'une certaine manière, quand je dis il faut apprendre, parce qu'on nous dit d'apprendre, mais il faut aussi désapprendre. À un moment, à ma manière, je suis une bosseuse, une travailleuse, j'ai voulu changer tout ça. Dans mes exemples ont toujours été les gars, que ça soit écrit, pas écrit, le jazz, il n'y a pas plus macho, je m'excuse, et ça continue de l'être, on le sait, il n'y a pas plus macho que le jazz, l'histoire du jazz, les femmes ont été pas interdites, mais elles n'étaient pas là, elles ne sont pas là. Donc j'en ai nommé deux, trois, Amérique, c'est grand, les États-Unis, il y a 300 millions de gens. Donc, après, tu arrives, des Marilyn Crispell arrive, mais là, dans les années 80 ou même 2000, donc, comment dire, bah, tu t'inventes l'invention de soi. Moi, j'appelle ça dans mon petit livre, là, qui s'appelle La Voix Basse. Tu parles, il n'est pas à voix basse, il est à voix haute. Je dis plein de trucs qui sont peut-être, je sais pas quoi, subversifs ou dérangeants, m'en fous. Voilà. Donc, c'est l'invention de soi. À un moment, tu apprends. Tu désapprends, puis tu vas fouiller quelque chose de toi-même, de prendre ce risque, de prendre la parole, ça s'appelle. On prend la parole. Et ça, personne nous a donné les clés. C'est une évidence. Moi, ce parcours-là, je l'ai fait seul. Mmh. Avec des rencontres. Mais je l'ai fait seul. Dans ce truc totalement anard. Oui, de ça, un peu le classique. Ah non, plus le classique. Un peu le contemporain. Contemporain, l'écrit, pas l'écrit, l'impro. Ah, sur les côtés, les autres. Une sorte de marasme extraordinaire. D'où peut naître, d'une bouse, peut naître une fleur. Voilà mon anarchisme. Il est là. Peut naître une fleur. Mm-hmm. D'ailleurs, quand tu te balades dans les campagnes, tu vois des fois, tu vois plein de bouses, de merde, de vaches, et tu vois, il y a quelques fleurs qui naissent. Ouais. Tu vois, donc, c'est comme ça. Après, on a trouvé des gigs, on dit dans le monde du jazz. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup joué en Allemagne, en Suisse et en Autriche, parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts que les Français, je m'excuse. Beaucoup, et les Américains, beaucoup plus ouverts que les Français. Donc, on a énormément joué en Allemagne, des tournées, des concerts, juste un ou deux, des Wells, j'en sais rien. On a beaucoup joué en Suisse, parce qu'il y avait Taklos Festival, il y avait trois villes, Berne, Zurich et Bâle. Très souvent, on a joué là et ailleurs. Mais pas pour prouver, pas pour dire, hey, maintenant il y a trois filles, écoutez-les. Non, pour simplement être nous. Mm-hmm. C'était sans force ni. Et il n'y avait personne, je m'excuse, hein, moi je te parle des fin 70, hein, début 80, il n'y avait personne. Alors, les classiques, on peut revenir à là et, faire, et essayer de comprendre. Les classiques, tu es, t'imagines le mot exécutant, tu es exécutant encore, tu as acheté une carabine. Tu exécutes quelque chose et tu as le compositeur en face de toi, donc tu la fermes. Ouais. Tu te tais. Tu es, comme disait Max Roche, le drums, Max Roche disait, on est des. Ah, il y a un terme extraordinaire, juste un seul mot, qui rejoint exécutant. Donc tu t'écrases, je ne sais pas comment, tu te tais. Et l'interprétation, tu interprètes la musique de quelqu'un d'autre. Mmh. Quand tu essayes de penser, d'écrire, composer, improviser, leader, moi j'ai un caractère plutôt leader woman, c'est vrai, personne ne m'a indiqué ça. Et puis tu as des sidemen ou des side women, c'est comme ça. Le jazz, tu as des leaders. Monk, c'était un leader. Il arrivait avec quelques petites partitions. Quoi. Après Mingus, tu fais tes partitions et tout. Ça, c'est un truc. Mais quand tu es très bonne musicienne, puisqu'on parle des femmes, c'est ce sujet-là, tu interprètes. Alors, voilà ce que je pense. Et c'est aussi profond, ce que je dis. Tu as des grands interprètes. C'est-à-dire, l'interprétation, c'est pas bêta. C'est pas parce qu'on te met une sonate de, je sais pas quoi, Corelli, où tu joues, même, va savoir, le blues ou un truc straight. Non, c'est que dans l'interprétation, il y a création. Puisque tu vas réinterpréter l'œuvre. Donc, tu vas donner ta part créative dans la sonate, dans Bach d'ailleurs, ou je ne sais que ça. Mais si tu veux, sinon, et ça continue de l'être, tous les orchestres et tout ça, t'as de monstrueux musiciens. Mais ils restent dans une chose appliquée. Je sais pas, ils ont une vie, ils ont peut-être trois. Moi, j'ai pas d'enfants, tu vois, j'aurais pu faire trois enfants, j'en sais rien, moi. Bon, donc à un moment, tout est dans tout. Donc j'ai eu tout ce temps aussi de fouiller, de comprendre, de souligner, de faire des relations entre, de choisir, parce que je t'ai déjà dit que vivre, c'est choisir, et c'est vrai. Donc, on a eu ce trio. Il est vrai, maintenant, on me dit, avec mes 73 ans bientôt, on me dit, ouais, tu comprends, il y en a un peu plus. Oui, il y en a un peu plus, mais on est au 21e siècle. Moi, je suis là dans les années 70. Donc, j'ai été protagoniste. Irène a été protagoniste. Il n'y avait pas de filles sur les routes. Attends, je parle sur les routes. Il y a peut-être des filles qui jouaient dans un truc. Sur les routes, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire, il faut trouver les gigs, il faut trouver les concerts, il faut trouver la date, il faut défendre les cachets. si on veut que ça soit enregistré, il faut trouver le producteur. Après, il y a le producteur, le fait. Il faut aller en studio. Il faut mixer. C'est un boulot énorme. Dire, hey, on est là aussi. Mmh. On est là. Et les gars, et je le dis, j'ai un micro, et je le dis, parce que j'en ai l'âge, et je le pense depuis de longues années, doivent changer. Nous, on a bougé. On s'est informé, on a travaillé. On avait des exemples. Bien, c'est tout à fait, je n'ai pas de critique de ça. Les gars doivent venir ouvrir les bras. En anglais, on dit un welcome. C'est ouvrir les bras. Hey, je sais pas quoi, Brigitte, Annie ou Martine. OK, hey, viens dans le quartet, on va voir. Ils doivent changer. C'est les gars qui doivent changer. Parce que nous, on a été vers eux. Et là, je parle de plus que de, des années. Je parle même de siècles. Attention. Mmh. On a été vers eux. Il faut qu'ils viennent vers nous. Ça change un peu. Pas assez rapidement pour mon... pour mon point of view, pas assez, pour différentes raisons, sûrement que j'ai analysé, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses, hein. Bien sûr, il n'y a pas assez de filles qui jouent, c'est en termes statistiques, si d'un coup tu avais 300 sax players en France, 258 clarinettistes, 400 pianistes qui jouent leur musique, hein. Tu avais, je sais pas, 300 contrebassistes, donc les gars qui va créer demain, il va créer un quartet, 4, jazz ou free ou ce que tu veux. Leader, il veut. Évidemment qu'il va appeler ses copains. Parce qu'il y a 300 sax, il y a peut-être que 4 filles.
Ah oui.
Il y a 400 pianistes, il y en a peut-être que 10. Donc, bah, tu vois, le gars qui veut créer un quartet, il va appeler Bruno, Pierre ou André. Ah oui. Il va pas appeler. Ou alors, il faut que la fille, et je le dis, et j'ose le dire, joue monstrueux. Alors, il dit, oh là là, il y a une nana à la clarinette, là, je sais pas, vers Strasbourg. Oh, je vais pas dire le mot. Elle joue. Alors là, les gars t'invitent. Mmh. Et là, il n'y a pas ni homme, ni femme et tout ce bazar. Il y a des musiciens qui ont le plaisir de faire de la musique ensemble. Mmh. Je crois que, statistiquement, il n'y a pas encore assez de filles.
Pourtant, ça évolue avec MeToo. Comment tu vois le truc?
Oui, mais c'est...
Tu vois, les programmateurs, par exemple, ils font gaffe maintenant. Et puis même au niveau institutionnel, oui, mais c'est récent. Dans les DRAC et tout ça, ils font
oui, mais c'est récent. Il y a même des lois qui sont passées au ministère de la Culture, ouais. De passer et de jouer même. Les orchestres symphoniques sont obligés de jouer des œuvres aussi à création, des femmes compositrices, ou c'est tout ça. Mais c'est là, réveillez-vous, wake up. Moi, je te parle des années 70. Ouais. Non, ça dure. C'est pas que le MeToo, c'est certaines femmes qui... je pense à Angela Davis, par exemple. C'est des femmes qui ont pris la parole. Et il y en a pas beaucoup, je m'excuse, il y en a pas beaucoup en Europe ou ailleurs. Ça change, c'est trop long, c'est trop lent.
C'est long.
Mais je pense, sans accuser, il faut que les gars réfléchissent. Il faut oser. Tiens, on va mettre deux filles, là. C'est parce qu'on est filles, c'est parce qu'elles jouent super. Putain, tu dis, waouh, la nana, elle joue. Alors voilà. Moi, j'ai pas plus à dire là-dessus. C'est pas même le mouvement MeToo, parce que c'est d'ordre, c'est ce sujet-là, c'est aussi politique. Il y a beaucoup de choses. Il y a des femmes maintenant qui ont changé. T'as des femmes chefs d'entreprise. Il n'y a pas que dans l'art et la culture. T'as des femmes, je sais pas quoi, tu roules sur l'autoroute, tu vois une nana qui conduit un gros camion. Pourquoi une nana, j'aurais pas du trombone? C'est ridicule.
Ah.
Tu vois, pourquoi une nana, j'aurais pas du drums?
Bien sûr.
Les disques.
Je propose qu'on écoute ton duo avec Nouria Andorra.
Voilà, elle est magnifique.
Thank you.
Alors, juste encore quelques mots sur la question des femmes dans le jazz. J'ai vu sur le réseau social, là, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, une tribune dans laquelle tu pestais, tu critiquais le fait qu'il y ait peu, ou pas du tout même d'ailleurs, de lauréates dans les victoires du jazz. Tu peux nous parler de ça?
J'ai fait une lettre ouverte, j'en pouvais plus. Ouais. Je me suis mis sur mon bureau, la rue Le Pic, et j'ai écrit. C'est parti de partout. Tu sais où c'est parti? Ça a été traduit en anglais. Ça a été lu par plus de 25 000 personnes. Ah oui. Peut-être 30. Ah oui. Parce que c'est parti de partout. Et je crois, ça questionnait les victoires du jazz. Victoire, déjà le mot victoire, tu pars en courant, parce que pour qu'il y ait victoire, il y a une bataille. Quand on est musicien, il n'y a pas de bataille, tu vois. Victoire du jazz, donc, c'est le 100 de mars, quoi. On sait plus où on est. Bref. Et effectivement, ce jour-là, cette année-là, il y a quelques années, j'ai vu comme des pingouins, tu sais, des pingouins noirs, il y avait des gars. Mais attends, il y avait peut-être, je prends un exemple au hasard, une nana qui joue du sax extraordinaire à Rennes et une autre pianiste à Marseille. Voilà.
C'est clair.
Et c'est ce même sujet-là. Et c'est réveillez-vous. Et je sais que j'ai fait bouger des choses parce qu'on me l'a dit.
Ouais,
puisque l'année d'après, il y a une attention, il n'y en aura que plus. Et après, je ne suis pas dans ce sujet-là, mais moi, je n'ai jamais été victoire de quoi que ce soit. Même, j'ai reçu 2 fois des médailles, et même chevalier, il n'y a pas chevalière. Alors, tu vois, je suis chevalier des Arts et des Lettres il y a 7-8 ans. Chevalier n'existe pas. Tu peux, je sais pas quoi, Et chevalier dans l'Ordre National du Mérite. Alors, tu vois, on m'a honoré de je ne sais quoi, et on m'a même honoré en juin dernier par les Américains, les Afro-Américains à New York. Donc j'ai rien contre, ça te touche, on te met une médaille, de toute façon tu mets pas la médaille, il faut que tu ailles l'acheter. Donc tu le crois pas toi, tu vas acheter ta médaille. Tu vas acheter ta médaille, et même le pin, c'est la femme qui vend les médailles, on t'achète la médaille parce que t'as reçu le truc. Non mais je suis un peu critique de beaucoup de choses, c'est comme ça. Et puis elle me dit, vous voulez un pin? Un pin, c'est tu as le truc qui te colle. Alors je dis non, j'ai dit mais c'est combien? Elle me dit 2 euros, j'allais acheter le pin, tu vois. Tu payes ta médaille. Puis on te met la médaille, je sais pas quoi. Donc on dit aussi chevalier. Donc
ouais.
c'est tout ça qui questionne.
Mais justement, mais moi ce qui me... Bon, alors, je vais faire l'avocat de je sais pas quoi, là. Ouais, bon, ce serait beaucoup faire moi. Tu vois, les victoires, qu'est-ce que t'en fous, finalement, des victoires? Tu vois, parce que, est-ce que le fait qu'une femme récemment soit Premier ministre, est-ce que ça a arrangé les choses? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est... On est dans on est dans un truc de patriarcat, de capitalisme, un truc de merde,
oui.
Quoi. Donc,
ben oui, mais alors est-ce que, ouais, mais les femmes se bougent depuis tant d'années, est-ce que ça peut changer quelque chose, un regard différent? Mais les victoires, non, sûrement pas, parce qu'il y a peut-être une Saxe au fin fond de Berne, en Suisse, ou je sais pas quoi, à Saint-Pétersbourg, où elle, qui joue monstrueux. Donc tout ça est un peu cocorico, hein, c'est bleu, blanc, rouge. Hein. Mmh. Cocorico, voilà. Alors, ça sert à rien, tiens, voilà, ces victoires. Ça crée de la compétition,
oui.
Tous ces sujets-là, des hiérarchies, des trucs, voilà.
Ça fait une émission de télé, finalement, pourquoi pas.
Voilà, il passe à la télé dont il passait pas il y a plusieurs années, parce que ça passait pas à la télé. Mmh. Des choses comme ça. Alors, c'est peut-être du bien pour le jazz, qui reste quand même une musique un peu de côté, il est vrai. C'est vrai qu'on en a que pour la pop, la chanson, et les conneries à la télé, il n'y a pas plus bêta, on rend les gens bêta. Jamais il y aura un portrait sur un ou une philosophe, ou un chorégraphe, ou une chorégraphe extraordinaire. Non, il n'y a que des variétés, je parle à la télévision française, que des variétés télé. Émissions à la radio, y en a, ça change quand même, ça bouge, ça questionne, mais télé, ça rend bêta les gens. La culture est très très basse, ni homme ni femme là-dedans. C'est les directions, c'est bêta, parce qu'ils veulent les pourcentages de... Ouais, j'en sais rien, c'est des compètes. Donc, le jazz reste jusque-là. C'est la seule musique qui reste très, très macho. Il n'y a pas ça dans le classique, il n'y a pas ça dans le contemporain, il n'y a pas ça dans le baroque. Il n'y a pas ça, mais je ne sais même pas, il n'y a pas ça dans le rock. Il y a beaucoup de filles qui jouent dans le rock.
Ouais.
Beaucoup de filles qui jouent dans le rock. Va au Japon, tu vas voir.
Ah oui.
Beaucoup de filles qui jouent dans la musique rock, dans le noise, dans le plein de choses. La musique trad, il y a plein de filles qui jouent dans la musique traditionnelle. Il n'y a que le jazz qui reste. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait parler à un anthropologue. Pourquoi l'aventure du jazz est que, en partie, masculin. C'est vrai que je n'ai pas trop de réponses à ça.
Je propose qu'on écoute. Can You Hear Me, une partie de Can You Hear Me, interprétée par le Tant-Tête, dont on parlera avec toi après. Alors, Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Nous sommes avec Joël Léandre. Aujourd'hui, on vient d'écouter Can You Hear Me, un extrait du Tentet de Joël Léandre. Et j'aimerais bien, Joël, que tu nous parles de cette formation avec 10 musiciennes et musiciens. Quelle idée avais-tu en initiant ce projet ?
Oh, c'est une longue histoire parce qu'elle débute en Autriche. J'ai reçu une commande d'un festival, Ulrichsberg. Jazz Festival, c'est un petit village en Autriche aussi. Mmh. C'est pas Nikasdorf, c'est Ulrichsberg, où j'y joue assez souvent. Je sais plus son nom. Aloïs, il s'appelle. Joël, voilà. Mais il m'a proposé une commande d'écriture, de faire ma cuisine, j'oserais dire, avec 10 musiciens autrichiens. 9, pardon, puisque la 10e, c'est moi qui joue à la basse.
Oui.
Donc, si tu veux, l'instrumentation était obligatoire. Il me dit, voilà, il y aura un violon, bien sûr, il y aura un percussion, drum, percussion, tu verras, un trombone, un sax. Moi, j'ai pris, parce que j'aime bien l'aventure, donc tu dois composer quelque chose. J'ai eu du temps, j'ai mis, composé 4 mois. En 4 mois, c'est long, hein, parce qu'il y a de la musique, c'est écrit classiquement parlant.